Imaginons un instant une communauté qui est vraiment au bord de l'effondrement total. Des gens tellement épuisés par la pression sociale, les moqueries publiques, qu'ils sont sur le point de tout lâcher.
Ouais, de renier leurs convictions les plus profondes.
Exactement. Juste pour retrouver une vie normale. Et là, la seule chose qui s'interpose entre eux et ce naufrage social, c'est l'ouverture d'une lettre.
Une ouverture assez brutale, d'ailleurs.
C'est le moins qu'on puisse dire. Pas de salutations polies, pas de formule du genre « j'espère que vous allez bien ». Non, le texte frappe direct avec la force d'un marteau.
Dès la première syllabe, ouais.
Voilà. Et aujourd'hui, notre exploration en profondeur plonge dans ce chef-d'œuvre absolu de la persuasion antique. Je parle des tout premiers versets de l'Épître aux Hébreux.
Un texte fascinant.
Ah, complètement. En nous appuyant sur l'analyse vraiment minutieuse du docteur David A. de Silva, notre mission, c'est de décortiquer la mécanique de ce texte.
C'est ça. Comprendre comment cet auteur du 1er siècle déploie en fait l'artillerie lourde de la rhétorique classique.
Avec les traditions de la sagesse juive, la hiérarchie cosmique, tout ça pour reconfigurer la réalité de son auditoire.
Et pour commencer, je dirais que l'angle sociologique, c'est vraiment la clé de voûte ici. Lire ce texte uniquement comme un traité théologique, désincarné, c'est complètement passer à côté de sa fonction.
C'est clair, c'est pas juste de la théorie.
Non, pas du tout. Le docteur de Silva démontre brillamment que c'est un document de survie. Dans l'Antiquité méditerranéenne, tu vois, l'honneur et la honte, c'était pas juste des sentiments internes.
C'était pas juste dans la tête, quoi.
Voilà, c'était les monnaies d'échange fondamentales de la société. Perdre son honneur, ben, c'était perdre son réseau, sa sécurité économique.
Sa place même dans la ville.
Exactement. Et cette communauté, elle subit une véritable hémorragie d'honneur. Pourquoi? Parce qu'elle s'accroche à un messie crucifié.
Ce qui était, j'imagine, la pire des choses à l'époque.
Ah ben, pour la culture gréco-romaine, c'est le summum de la dégradation. Du coup, chaque argument de l'auteur est une sorte d'ingénierie sociale pour inverser cette perception de la honte.
Bon, décortiquons tout cela, parce que la structure même de l'ouverture, elle est conçue pour imposer cette nouvelle réalité. Moi, je compare souvent ça à l'introduction d'un avocat.
Ah oui, lors d'un procès.
Ouais. Un avocat de la défense dans un procès pénal à très haut risque. Il commence pas par des détails administratifs ennuyeux.
Il n'y a pas le temps pour ça.
Exactement. Il s'avance, il capte le regard des jurés, et bam, il abat immédiatement ses cordes les plus fortes.
Pour établir une domination intellectuelle.
C'est tout à fait ça. Et le texte grec original, des premiers versets, c'est une vraie démonstration de force. L'auteur fait une allitération majestueuse avec la lettre pi.
Ah oui, polyméros kai polytropos.
Voilà. Ce qui signifie à plusieurs reprises et de plusieurs manières. En gros, il ne se contente pas de dire que Dieu a parlé, il le prouve avec une virtuosité qui force le respect de son public.
Et cette virtuosité, elle sert de véhicule à un piège logique complètement imparable. L'auteur déploie un syllogisme fondamental.
Un syllogisme, c'est-à-dire ?
Ben, y a une prémisse majeure qui établit une continuité. Le même Dieu qui a parlé autrefois par les prophètes vient de parler par un fils.
Ok, ça c'est la base.
Ensuite, la prémisse mineure, qui demande le plus gros effort de démonstration d'ailleurs, affirme que ce fils occupe une position infiniment supérieure à celle des anges.
Ah, la hiérarchie.
Voilà. Et donc, la conclusion s'impose toute seule. S'il était vital d'écouter les anges autrefois, bah, ignorer ce fils aujourd'hui, ça relèverait du suicide spirituel.
Oui, c'est logique.
C'est ce que les rabbins appellent le « cal wa omer » ou les rhéteurs romains, l'argument a fortiori, du moindre au plus grand.
Et pour appuyer ça, on a cette avalanche de citations de l'Ancien Testament, du verset 5 au verset 14.
C'est massif.
Ouais. L'auteur tisse ensemble le Deutéronome, les livres de Samuel, plusieurs psaumes. C'est la technique du charaz, c'est ça?
Exactement, le charaz.
Comme le fait d'enfiler des perles pour créer un nouveau collier. En balançant cette citation en quelques phrases, le mec s'établit comme le maître incontesté du texte sacré.
Il montre qu'il a la grille de lecture ultime, en fait.
Voilà. Mais pour que ça tienne, il doit justifier cette suprématie du Fils. Et il puise dans la tradition de la sagesse personnifiée.
Ce qui est fascinant ici, c'est la synthèse intellectuelle que ça représente. Le public du 1er siècle connaissait très bien la traduction grecque des Écritures.
De textes comme les Proverbes.
Les Proverbes, chapitre 8, ou la sagesse de Salomon. Et dans cette tradition, la sagesse divine, souvent appelée dame sagesse, c'est pas une simple abstraction.
C'est une personne.
Ouais, c'est l'artisane primordiale, la partenaire de Dieu lors de la création de l'univers. Le vocabulaire est hyper spécifique. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache.
C'est hyper poétique. Et c'est ça qui rend l'emprunt brillant. L'auteur prend ces mots précis et les applique au fils.
Tout à fait.
Il utilise apogasma pour le rayonnement et caractère pour l'empreinte exacte. Et là, je me pose une question.
Vas-y.
Est-ce que le fait d'emprunter ce concept de dame sagesse, ça veut dire que les premiers chrétiens manquaient d'idées originales, ou est-ce que c'était une stratégie de communication de génie ?
Oh, c'est clairement de la traduction culturelle de haut vol. C'est pas un manque d'originalité. Pour faire comprendre l'incarnation, qui est une idée radicale, il utilise les briques que son public vénère déjà.
Donc le fils devient la sagesse incarnée.
C'est ça, la force architecte qui soutient toute chose. Et l'implication éthique est immédiate. Aristote disait que le respect qu'on doit à une entité est proportionnel à son rôle dans notre vie.
Donc le créateur mérite le respect absolu.
Exactement. En rattachant le fils au statut de créateur providentiel, l'auteur verrouille son argument. L'allégeance au fils, c'est pas une option, c'est l'obligation morale numéro un.
Et le génie rhétorique s'arrête pas là. Il est le créateur dans le passé, mais l'auteur le projette dans le futur.
En tant qu'héritier.
Voilà, l'héritier de toute chose. Et pour ancrer ça, il recycle carrément le répertoire politique de l'ancien royaume de Juda, avec les psaumes royaux. Les psaumes 2, 45, 110.
Des hymnes de couronnement à la base.
Ouais, sous David, c'était des chants patriotiques.
Mais le traumatisme de 586 avant notre ère change tout.
La destruction de Jérusalem.
C'est ça, la monarchie disparaît, l'indépendance politique n'est plus qu'un souvenir. Mais au lieu de jeter ces chants, devenus obsolètes, ils les ont gardés et réinterprétés.
Ils en ont fait des oracles.
Des oracles eschatologiques, oui. Ça ne décrivait plus un roi présent, mais l'attente incandescente d'un roi futur, un messie pour restaurer la justice.
Et l'auteur de l'épître s'empare de ça. Il dit, les gars, le couronnement a déjà eu lieu dans les cieux, le fils siège à la droite de la majesté comme dans le psaume 110.
L'impact sur l'auditoire devait être immense.
Mais carrément, pour moi c'est l'équivalent antique du délit d'initié.
Ah oui, comment ça ?
Imagine, tu détiens des actions dans une entreprise dont tout le monde se moque. Mais tu as l'information confidentielle que le PDG va racheter le monde entier.
C'est une excellente métaphore.
La société romaine les rejette, les traite d'adeptes d'un criminel exécuté. Mais eux, ils ont le document qui prouve que ce criminel détient le titre de propriété de l'univers.
Si ton patron, c'est le maître de l'univers.
Voilà. Ils appartiennent à la maison la plus puissante du cosmos. L'hostilité des voisins païens ou le rejet de la famille, ça perd son pouvoir de destruction.
La honte n'est que temporaire.
C'est une restructuration cognitive complète. Leur honneur est adossé à l'honneur inébranlable du fils.
C'est super puissant. Ce qui nous amène à la fameuse question des anges. Si le fils dirige tout, pourquoi passer autant de temps au chapitre 1 à le comparer aux anges ?
C'est une question cruciale.
Parce qu'il faut sortir de la tête l'image moderne des petits chérubins inoffensifs, hein ?
Ah ça oui, rien à voir.
Au 1er siècle, les anges, ce sont les courtiers du pouvoir cosmique. Dans le livre des Jubilés, ils sont les commandants des armées célestes, les prêtres du sanctuaire d'en haut.
Et le point culminant de cette croyance, c'est qu'ils étaient les médiateurs de la loi.
De la Torah.
Exactement. Joseph et d'autres textes disent que la Torah a été transmise par les anges. Ils garantissent l'ordre moral.
Donc juste pour clarifier un point critique, l'auteur ne s'attaque pas à une hérésie d'adoration des anges, on est d'accord, hein ?
Non, pas du tout.
Il utilise l'énorme respect que les gens avaient pour eux comme un tremplin. Il fait une sans crisis.
Une comparaison classique, oui.
Si les anges sont extraordinaires, imaginez le fils. Et ça culmine quand il dit que les anges reçoivent l'ordre de se prosterner devant le fils lors de son introduction dans l'oïcoumène.
Le terme oïcoumène est fondamental ici.
Littéralement, c'est la terre habitée, non ?
Oui, mais dans le contexte eschatologique de la lettre, ça désigne le monde à venir, le royaume divin inébranlable. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est là que tout prend son sens.
C'est-à-dire ?
L'auteur oppose l'instabilité du monde présent à la permanence du Fils. Il cite le psaume 102, « Le monde vieillit, il sera jeté comme un vieux manteau. »
Le monde matériel en entropie.
C'est ça. Le public hellénisé angoissait face au changement. Et là, on leur dit que le Fils reste le même, que ses années ne finiront pas.
C'est le seul point fixe.
Exactement. Les anges, eux, font partie du monde créé. Ils sont comparés au vent, à la flamme, des serviteurs soumis aux fluctuations. Seul le Fils est permanent.
Et ce contraste entre l'éphémère et l'éternel, ça prépare le terrain pour le grand choc du chapitre 2.
L'avertissement.
Le coup de semonce, ouais. Tout ça n'avait qu'un but, donner un poids écrasant à l'avertissement. le ton bascule de la théologie à l'urgence.
L'argument a fortiori à l'état pur.
C'est glaçant. Il dit « Si la loi transmise par les anges exigeait une obéissance stricte, comment pourrions-nous échapper aux conséquences si on néglige le salut apporté par le maître de l'univers ?»
Et le verbe qu'il utilise, « parareo », dérivé, est incroyable.
C'est une métaphore nautique.
Voilà. Il ne parle pas d'une grosse rébellion spectaculaire. Il décrit une dérive silencieuse, la perte des amarres sous la force du courant social.
La fatigue, quoi?
L'usure de la marginalisation. La tentation, c'est pas d'embrasser une nouvelle religion, c'est juste de lâcher prise, d'arrêter de nager à contre-courant.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'ironie tragique, c'est le contraste des perceptions.
C'est-à-dire?
Pour l'auteur, lâcher prise, c'est un naufrage cosmique. Mais pour les voisins païens, c'est un retour à la raison.
Ah, bien sûr.
Abandonner le Christ, c'était redevenir normal. Reparticiper au banquet, retrouver la respectabilité. Sociologiquement, la dérive, c'était le retour à la normale.
C'est pour ça que c'est si dur. Et cela soulève une question importante sur la définition du salut, la sotéria.
Ouais, parce que pour nous, le salut, c'est un truc du passé, non?
Souvent oui, un statut spirituel déjà acquis. Mais pour le docteur De Silva, dans ce texte, le salut est futur et eschatologique.
C'est un événement à venir.
C'est la délivrance physique, sociale et cosmique finale, quand le Fils prendra son héritage.
Ça change toute leur façon de voir leur souffrance.
S'ils subissent l'opprobre, c'est parce que le monde actuel n'est pas encore assujetti.
Le texte parle de faire des ennemis un marchepied. C'est violent comme image.
Dans l'iconographie antique, les rois posaient physiquement leurs pieds sur le cou des vaincus. L'auteur dit « Vos persécuteurs actuels, ce sont les futurs marchepieds du Fils. »
Waouh ! Donc, en regardant vers ce monde inébranlable, il dévalue la douleur du présent.
Exactement. Le bénéfice immédiat de l'intégration sociale ne pèse rien face à la ruine dans le monde à venir. C'est un choix d'approbation.
L'approbation d'une société qui va périr ou l'approbation du souverain éternel.
L'auteur les force à choisir leur réalité.
Finalement, ces deux premiers chapitres, c'est une vraie intervention de crise. Le syllogisme, la dame sagesse, les psaumes, les anges relégués au rang de serviteurs, tout converge vers un appel à la loyauté.
Une loyauté active, hein, parce que la passivité n'est pas neutre. Le courant social est si fort qu'il suffit d'arrêter de faire attention pour dériver.
Il faut une intentionnalité féroce.
C'est indispensable.
Et franchement, je trouve ça dingue de transposer ça à notre époque.
Ah, tu penses à nos dérives modernes, hein ?
Complètement. Si cette communauté de l'Antiquité, sans smartphone, sans réseaux sociaux, devait fournir un tel effort mental pour résister à la dérive et aux besoins de conformité sociale...
Imagine aujourd'hui.
Exactement. Avec la saturation numérique, l'avalanche d'infos éphémères, les algorithmes qui récompensent le conformisme à la seconde près, l'esprit moderne est peut-être plus vulnérable que jamais.
À cette fameuse dérive silencieuse.
Voilà. On est noyé dans le flux de l'immédiateté, loin des réalités inébranlables. C'est fascinant de voir que cette mécanique de persuasion antique expose encore, des millénaires plus tard, la fragilité de nos propres ancrages.
C'est une belle leçon de permanence.
Eh bien, sur cette pensée vertigineuse, on vous invite à garder le cap. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et à très vite pour une nouvelle plongée en profondeur.